Extrait numéro 15, chapitre 20. Les favoris de Paul Ier. Nous vous avons dit en passant deux mots du Palais Rouge, aujourd'hui peint en jaune, et de cette ancienne résidence impériale devenue école du génie. Il se dresse à l'extrémité du jardin d'été, de l'autre côté de la Fontanka, dont il est séparé par un pont. C'est Paul Ier qui le fit bâtir, ainsi que la caserne du fameux régiment de Polovski, où l'on ne pouvait entrer qu'avec le nez retroussé, parce que c'était le régiment de l'empereur et que l'empereur avait le nez retroussé. Un souterrain communiquait du palais à la caserne. Il fut peint en rouge en mémoire d'un certain caprice qu'avait eu la maîtresse de Paul de porter des gants rouges. Cette maîtresse se nommait Anna Lapoukine. Elle était de la famille de cette malheureuse Eudoxie Lapoukine, première femme de Pierre le Grand, mère d'Alexis, qui vit son fils saigné aux quatre membres, son amant empalé et son frère écartelé, sans compter un autre frère dont Pierre fit scier le tombeau, ne pouvant lui scier le cou. Paul était fou de sa maîtresse. Le père de celle-ci, général du Sénat, c'est-à-dire ministre de la Justice, eut un désir que n'avaient pas eu les Narychkine, quoique la famille Narychkine comme la famille Lapoukine eût eu une impératrice, il eut l'envie d'être comte. Un jour, poussé par son père, Anna demanda pour lui cette faveur à Paul Ier. « Bon, lui dit celui-ci, je vous vois venir, vous voulez être comtesse. Eh bien, vous serez princesse, ma belle. » Et le lendemain, 18 janvier 1799, les Lapoukine étaient princes. Paul Ier avait ces sortes de fantaisies et s'amusait parfois à faire escalader toute l'échelle sociale, civile ou militaire, à quelques privilégiés de son caprice, en moins de temps qu'il n'en eût fallu, pour en dresser et en signer les brevets. Un jour, il se promenait en calèche découverte, il voit passer un enseigne dont le visage lui plaît. Il arrête sa voiture et fait signe à l'enseigne de s'approcher. Qu'il fût en colère ou joyeux, la figure de Paul avait toujours une expression terrible. L'enseigne s'approche tout tremblant. « Qui es-tu, poussière ?» lui demanda Paul. Paul disait « poussière » à ses inférieurs, de quelque rang qu'ils fussent. Tout n'est-il pas poussière pour les souverains qui peuvent tout ? La poussière répondit « Je suis humble enseigne dans un régiment de votre majesté. » « Tu mens, répond l'empereur, tu es sous-lieutenant, monte ici. » Et il désigna au jeune homme le siège de derrière de sa voiture, dont il fit descendre le valet. Le jeune homme monta, la voiture repartit. Au bout de 20 pas, l'empereur se retourna. « Qu'es-tu ? » demande-t-il au jeune homme. « Sous-lieutenant, sire, grâce aux bontés de votre majesté. » « Tu mens, tu es lieutenant. » Au bout de 20 autres pas, l'empereur se retourna pour la seconde fois. « Qu'es-tu ? » demande-t-il encore. « Lieutenant, tu mens, tu es capitaine. » En arrivant au palais, l'enseigne était générale. Si le palais rouge eût été situé 100 pas plus loin, l'enseigne y arrivait feld-maréchal. Paul avait de ces étranges attachements. Le général Capioff en fut un exemple. Capioff était petit page, près de Paul, lorsque Paul monta au trône et passa de son exil de Gatchina à la toute-puissance. Ce petit page était pauvre, mais pétillant d'esprit. Les gros yeux de Paul, qui ne lui avaient pas fait peur lorsque Paul était grand-duc, ne lui firent pas plus peur lorsqu'il fut empereur de toutes les Russies. Paul étouffait toujours. Lorsqu'il était seul dans sa chambre, il se promenait à grands pas, en long et en large, puis allait à la fenêtre, l'ouvrait lui-même, respirait une large bouffée d'air, refermait la croisée, allait à sa table. Prenait une prise de tabac à la manière du grand Frédéric, Paul Ier, comme Pierre III était fanatique du roi de Prusse, refermait sa tabatière, la posait sur la table, se promenait de nouveau, étouffait plus que jamais, allait encore à la fenêtre, l'ouvrait, respirait, la refermait pour la dixième fois, reprenait sa prise et recommençait incessamment le même manège. Cette tabatière était sa tabatière favorite. Sans un ordre de l'empereur, nul ne l'osait toucher. Celui qui l'eût touché eût été foudroyé, ni plus ni moins, et même plus sûrement que s'il eût mis la main sur l'arche sainte. Capiof fit un jour, avec ses camarades, le pari, non pas de toucher à la tabatière sainte, ce n'eût été qu'un crime de lèse tabatière, mais d'y prendre une prise, ce qui était un crime de lèse majesté. La chose parut si impossible que l'on paria double contre simple, comme on fait dans les courses de chevaux, où certains coureurs sont à peu près sûrs de gagner. Capiof aussi ne pouvait manquer de gagner, Dieu savait quoi. Mais Capiof comptait sur sa bonne étoile. Plus d'une fois déjà, ses facéties avaient fait rire l'empereur. Et l'empereur ne riait pas souvent. Un autre serait entré pendant que Paul avait le dos tourné. Un autre eût ouvert la tabatière le plus doucement possible. Capiof entra, tandis que l'empereur marchait de la fenêtre à la porte. Il fit en entrant crier la porte, crier ses bottes, crier le parquet. Il alla à la tabatière et l'ouvrit avec ce bruit qui, 50 ans plus tard, devait concourir si puissamment au succès de l'auberge des Adrets. Il y plongea insolemment les deux doigts, y prit une prise copieuse et, malgré les recommandations de la civilité puérile et honnête, l'aspira bruyamment. L'empereur le regardait faire, stupéfait de son audace. « Que fais-tu là, petit drôle ?» lui dit-il enfin. « Votre Majesté le voit, je prends une prise. »« Et pourquoi prends-tu une prise ?»« Parce que je suis de garde près de votre Majesté depuis hier au soir, que j'ai veillé toute la nuit, comme c'était mon devoir, sans fermer l'œil, que j'ai senti que je m'endormais, et que préférant être puni pour une inconvenance que pour une infraction à mes devoirs, j'ai pris une prise afin de me réveiller. « Eh bien, dit Paul en riant, puisque tu as pris le tabac, coquin, prends la tabatière avec. » La tabatière était garnie de diamants et valait 20 000 roubles. Capiof vendut la tabatière et la but et la mangea. Il en eut pour un an. Pendant un an, les pages de Sa Majesté firent bombance. Le dernier copec disparu, Capiof proposa un autre pari. C'était de tirer pendant le dîner la queue de l'empereur si fort que l'empereur en pousserait un cri. Le pari fut tenu. Tirer la queue d'un homme qui faisait descendre les femmes de leur voiture dans la boue quand il passait, et qui envoyait un régiment tout entier en Sibérie parce que ce régiment avait mal manœuvré, c'était une entreprise insensée. Aussi, Capiof prépara-t-il ses batteries d'avance. On portait à cette époque des queues à la Frédéric le Grand, comme on portait des tabatières à la Frédéric le Grand, des bottes à la Frédéric le Grand, des chapeaux à la Frédéric le Grand. Les pages portaient, comme l'empereur, des queues à la Frédéric le Grand. Cette queue devait tomber régulièrement entre les deux épaules. Deux ou trois fois, Capiof porta devant l'empereur sa queue de travers. La première fois, l'empereur gronda. La deuxième fois, il le mit aux arrêts dans sa chambre. La troisième fois, il l'envoya à la forteresse. Sorti de la forteresse, Capiof reprit son service au palais. Ce service l'appelait, au moment du dîner, à se tenir debout derrière la chaise de Paul. Tout à coup, au beau milieu du dîner, Capiof prend la queue de Sa Majesté comme il aurait fait d'un cordon de sonnette et l'attire si vigoureusement que l'empereur jette un cri. « Plaît-il ? » dit Capiof. « Que fais-tu à ma queue, coquin ?»«
Elle était de travers, sire, je la remets droite. »
« Tu pouvais bien la remettre droite, drôle, sans tirer si fort. » Et Capiof en fut quitte pour cette mercuriale, bien innocente, qui rappelait la claque donnée sur le derrière de Turenne. Au milieu de tout cela, Capiof faisait son chemin. Et il occupait déjà un grade supérieur lorsqu'il s'avisa un beau jour, probablement à la suite d'un pari, de se promener devant le palais avec des bottes à la Frédéric le Grand, un chapeau à la Frédéric le Grand, un habit à la Frédéric le Grand, une queue à la Frédéric le Grand et une canne à la Frédéric le Grand, le tout tellement exagéré et en même temps tellement copié sur le costume de l'empereur que Capiof était devenu la caricature de l'empereur. L'empereur sortit et la première personne qu'il rencontra fut Capiof. Cette fois, l'insulte était trop grave. Capiof fut dégradé. Or, il arriva que comme soldat, il monta la garde devant le palais entre 8 et 10 heures du matin. À 9 heures du matin, le grand maître de police nommé Chulok, dont le père avait épousé sa cuisinière, passe devant lui pour aller rendre compte à l'empereur de ce qui s'était passé pendant la nuit. Chulok veut dire en russe « bas de coton ». « Eh !» lui dit Capiof, « ton père était un bas de coton et a épousé un torchon. Explique-moi maintenant comment un bas de coton et un torchon ont pu faire un oison. » Le maître de police, furieux, monte chez l'empereur et lui raconte ce qui vient de se passer en demandant justice contre la sentinelle insolente. L'empereur ordonne que la sentinelle soit amenée devant lui et reconnaît Capiof. Au lieu d'être puni, Capiof rentra en grâce, continua son chemin militaire et arriva au grade de général. Le général Capiof était à la forteresse pour un méfait du genre de ceux que nous venons de raconter, lorsque parut l'oukaz de Paul Ier, ordonnant à toute voiture de s'arrêter quand il passait et à tout individu ayant l'honneur de le rencontrer, de descendre de cette voiture et, quelque temps qu'il fît, de s'agenouiller si c'était un homme, de faire la révérence si c'était une femme. La veille du jour où il devait sortir de la forteresse, Capiof, qui à force d'y rendre des visites était là comme chez lui, fit acheter 4 ou 5 oies, 2 ou 3 dindes et 5 ou 6 canards. Puis le lendemain, il fit entrer toute cette volaille dans une voiture et y entra derrière elle. Capiof connaissait les habitudes de Paul mieux que les siennes. En sa qualité d'admirateur de la discipline, Paul Ier était régulier comme un Allemand. L'ex-prisonnier s'arrangea de manière que sa voiture croisa celle de Paul. À la vue de la voiture de l'empereur, le cocher de Capiof s'arrêta et Capiof, entouré de ses oies, de ses canards et de ses dindons qu'il avait fait descendre en même temps que lui, se mit à genoux. « Qu'est-ce que tout cela ? » fit demander l'empereur Paul, étonné du singulier spectacle qui frappait ses yeux. « C'est le général Capiof et sa maison qui sortent de la forteresse, » lui répondit-on. « Ah, ils sortent de la forteresse, » répondit Paul. « Eh bien, qu'ils y retournent. » Et le général Capiof et sa maison retournèrent à la forteresse. Mais l'empereur ne pouvait se passer de Capiof, dont l'éternelle fantaisie le distrayait. En échange, il détestait les gens moroses. Il exila le fameux Diebitch, qui n'avait alors que 16 ans, parce que, dit Loukas, son visage était si laid qu'il donnait de la mélancolie aux soldats. Diebitch devint plus tard le favori d'Alexandre, fut blessé à Austerlitz, se distingua à Eylau et à Friedland, donna en 1814 le conseil de marcher sur Paris, accompli dans la guerre contre les Turcs en 1828 le passage du Balkan, d'où il reçut le surnom de Zabalkanski, fut nommé feldmaréchal, commanda l'armée russe dans la guerre de Pologne de 1831, vainquit à Ostrolenka, puis fut battu par les Polonais et peu de temps après cette défaite, mourut d'une de ces morts mystérieuses qui laissent l'histoire flotter entre le suicide, l'apoplexie, le choléra ou l'empoisonnement. Quoique chef de l'Église grecque, l'empereur Paul, voyant par l'abolition des ordres en France la religion de Malte tomber en désuétude, s'était fait de son autorité privée maître de l'ordre et était très fier de sa maîtrise, fonction qui ne peut, d'après les statuts, être remplie que par un catholique, apostolique et romain. Mais Paul n'y regardait pas de si près, et dans la plupart de ses portraits, il est représenté avec l'étoile aux quatre rayons. Bientôt, il lui passa une autre idée par l'esprit. Il eut la fantaisie, l'ordre de Malte étant un ordre religieux, de dire la messe comme grand maître de l'ordre. On lui fit observer que les prêtres catholiques gardaient le célibat. Ce à quoi il répondit que c'était un obstacle tant que l'ordre de Malte était resté un ordre catholique romain, mais que du moment qu'il était devenu un ordre russe, les prêtres grecs se mariant, son mariage à lui ne devait point être une difficulté. Puis il se mit à s'exercer au champ d'église et fixa d'avance le jour pour cette grande solennité où il officierait avec la double qualité de chef de la religion orthodoxe et de grand maître de Malte. La terreur fut grande dans tout le clergé russe. Un sacrilège commis par l'empereur lui-même dans le pays le plus religieux de la terre, c'était chose grave. Enfin, l'archimandrite de Troïtsa, l'illustre Platon, consulté là-dessus, eut une idée. Il fit tout exprès le voyage de Saint-Pétersbourg et vint dire à Paul qui avait pour lui une grande considération. « Sire, vous ne pouvez dire la messe. »« Et pourquoi cela ? » répondit Paul. « Puisque les prêtres grecs se marient. »« Oui, mais ils ne peuvent se marier qu'une fois, et votre majesté est mariée deux fois. » « C'est juste, » répondit Paul, et il renonça à sa fantaisie de dire la messe. Comme Tsarevitch, il avait voyagé en France sous le nom de Comte du Nord. Arrivé à Versailles, il voulait assister au lever du roi. Mais quelque instance qui lui fut faite, il se rangea parmi les simples gentilshommes. Louis XVI, prévenu, alla à lui, lui prit la main en lui demandant pourquoi il s'était soustrait aux honneurs qui lui étaient dus. « Sire, répondit le tsarevitch, j'ai voulu avoir un instant le bonheur de me croire un de vos sujets. » Jeune homme, et pendant son exil à Gatchina, il était très hospitalier, et quoique Catherine ne lui donnât que le strict nécessaire, de peur qu'il ne se servît de cet argent pour tramer quelque conspiration, il faisait admirablement les honneurs du château à ceux qui venaient l'y visiter. Et après s'être occupé des maîtres, il montait jusque dans les mansardes pour voir si les domestiques étaient bien traités. La Révolution française l'avait exaspéré. Quiconque la lui rappelait par un fait, par une comparaison, une citation, un mot, tombait à l'instant même en disgrâce. Il revenait de Gatchina dans un droshky à deux places, accompagné d'un de ses favoris et suivi d'une voiture où étaient son intendant et deux secrétaires. On traversait une forêt magnifique, disparue depuis, comme disparaissent les unes après les autres toutes les forêts russes. « Voyez donc quel magnifique sapin !» dit Paul à son favori. « Oui, » répond celui-ci, « ce sont les représentants des siècles passés. »« Les représentants !» s'écrie Paul. « Voilà un mot qui sent la Révolution française.
Montez dans l'autre voiture, monsieur. » Et Paul fit descendre son favori de sa voiture et le fit monter dans celle de ses secrétaires. Le favori resta en disgrâce pendant toute la vie de Paul pour avoir voulu faire de la poésie historique à propos d'un bois de sapin. Nous avons déjà, en parlant de Souvorov, raconté comment celui-ci avait été reçu par l'empereur Paul à son retour d'Italie. Citons deux anecdotes qui précédèrent son départ. Le vieux guerrier était en disgrâce dans le gouvernement de Novgorod lorsque Paul, voulant lui donner le commandement et l'armée d'Italie, l'envoya chercher par deux de ses généraux aides-de-camp. C'était au cœur de l'hiver. Il faisait 20 degrés de froid. Souvorov, sans pelisse, habillé de son kitil, surtout en toile blanche, monta dans la voiture de ses généraux qui, n'osant pas endosser leur pelisse en présence d'un supérieur, firent en simple uniforme un trajet de plus de 100 verstes et faillirent mourir de froid. D'autant plus que le vieux Souvorov, insensible à tout, se plaignait au contraire de la chaleur et ouvrait de temps en temps les portières de la voiture. L'empereur attendait Souvorov, auquel il comptait faire grande réception sur son trône, entouré de ses ministres et des ambassadeurs des cours étrangères. Il apprend alors dans quel costume Souvorov compte se présenter à lui, sous le prétexte spécieux qu'il est en retraite. Aussitôt, il envoie un aide-de-camp lui annoncer que non seulement il n'est plus en retraite, mais encore qu'il est nommé feld-maréchal. Souvorov ordonne alors de retourner à sa maison de Saint-Pétersbourg et revêt l'uniforme de feld-maréchal qu'il avait fait faire d'avance, puis il remonte en voiture et se rend au palais. Mais en entrant dans la salle du trône, Souvorov fait comme si le pied lui manquait, tombe sur ses mains et continue à s'avancer vers le trône, mais en rampant. « Que faites-vous, feld-maréchal ?» lui dit Paul, furieux de cette facétie. « Que voulez-vous, sire ?» lui répond Souvorov. « Je suis habitué à la terre ferme des champs de bataille, et le parquet de vos palais, à vous autres empereurs et impératrices, est si glissant que ce n'est qu'en rampant que l'on peut y faire son chemin. » Et il continua de ramper jusqu'au dernier degré du trône. Là, il se releva. « Maintenant, dit-il, sire, j'attends vos ordres. » Paul lui tendit la main et le confirma dans son grade de feld-maréchal, lui annonçant qu'un grand conseil serait tenu devant lui par les généraux russes pour arrêter le plan de la campagne d'Italie. Le jour du conseil arrivé, Souvorov s'y rend en grand costume cette fois, et sans vouloir dire une seule parole, écoute les propositions faites par ses collègues et qui consistaient surtout dans la marche à suivre à travers le Tyrol et ensuite dans les plaines lombardes. Seulement à certains moments, Souvorov faisait des bonds à rendre jaloux un clown. Dans d'autres, il tirait ses bottes et relevait son pantalon. Dans d'autres, enfin, il criait « À moi, j'enfonce, j'enfonce, j'enfonce !» Ce fut tout ce que l'on put tirer de lui pendant tout le temps que dura le conseil. Le conseil terminé, l'empereur, qui pensait bien, habitué qu'il était aux excentricités de Souvorov, que celui-ci avait eu une raison pour agir ainsi, congédia ses généraux et retint Souvorov. Et maintenant, vieux paillasse, lui dit-il en riant, explique-moi ce que tu voulais dire en faisant tes sauts de chamois, en relevant ton pantalon et en criant à moi, j'enfonce, j'enfonce, j'enfonce. Sire, répondit Souvorov, le conseil était composé de généraux qui n'ont aucune notion de la topographie de l'Italie. Je suivais la route qu'il traçait à mon armée. Quand je sautais comme un chamois, c'est qu'il me faisait passer par-dessus des montagnes où des chamois seuls peuvent passer. Quand je relevais mon pantalon, c'est que nous étions en train de traverser des rivières où, après avoir eu de l'eau jusqu'aux genoux, j'allais en avoir par-dessus la tête. Enfin, quand je criais « À moi, j'enfonce, j'enfonce, j'enfonce », c'est que l'on conduisait moi et mon artillerie dans des marais où je jetterais bien d'autres cris si j'ai le malheur de m'y aventurer jamais. » Paul se mit à rire et lui dit « Que vous importe la vie de ces imbéciles, je vous donne tout pouvoir. » « Oh, dans ce cas-là, » dit Suvorov, « j'accepte. Seulement, vous me promettez d'oublier l'injustice qui vous a été faite. » « Oui, à la condition que vous me permettrez de réparer une injustice non moins grande faite à un autre. » « Quel est cet autre ? » ?»« Peu vous importe, puisque c'est à moi et non à vous de rendre justice. » « Fais donc à ta fantaisie, vieil entêté, encore une fois. Je te donne tout pouvoir. » Suvorov prit congé de Paul, rentra chez lui et envoya chercher un vieil officier tombé en disgrâce depuis 4 ans et qui, comme partisan, s'était fait une énorme réputation. L'officier arriva. Suvorov, en signe de suprême satisfaction, se mit à imiter par 3 fois le chant du coq. Au 3e cocorico, il s'interrompit et avec emphase débita les vers suivants qu'il venait d'improviser et qui rappelaient les différents endroits où le vieil officier s'était distingué. Voici le poème. Pour Brel, la croix de Saint-Georges, et pour Prague, une épée en or. Pour Stulstein, Sainte-Anne à la gorge et rang de colonel-major. Enfin, dernière récompense, donnée au roi des partisans, j'ajoute 500 paysans pour ta sublime patience. Après quoi, il embrassa le colonel-major et le renvoya mourir tranquille, honoré, riche et heureux chez lui. Paul ratifia tout ce que Suvorov avait compris en son nom. C'est que Paul était plutôt un maniaque qu'un méchant homme. Mais le pouvoir aux mains d'un maniaque est une arme dangereuse. Il avait compris cela. Puis le souvenir de Pierre Tourin, assassiné à Ropcha, le poursuivait sans cesse. Il avait fait bâtir le Palais Rouge et, comme nous l'avons dit, avait établi une communication souterraine entre ce palais et la caserne du régiment de Polovski, placé de l'autre côté du Champ de Mars. Dans sa chambre, il avait fait pratiquer une trappe, à l'aide de laquelle, en pressant du talon un ressort, il descendait à travers le plancher. Il se trouvait alors à l'entrée du corridor conduisant au souterrain. Sur la façade du palais, il avait fait peindre cette inscription, qui existe encore aujourd'hui. « À ta maison revient la bénédiction du Dieu Saint pour l'éternité des jours. » Le Seigneur ne médit point la maison, et encore moins celui qui l'avait fait bâtir. Celui qui l'avait fait bâtir fut assassiné. La maison resta longtemps déserte. Voici comment, en 1818, ce palais apparaissait à Pouchkine. Lorsque la lune éteinte au fond du fleuve sombre sa nocturne clarté pâle flambeau des cieux, quand tout repose et dort, il est un point dans l'ombre où le poète arrête un regard soucieux. C'est sur toi, noir palais où nul feu ne s'allume, sépulcre menaçant dans l'ombre enseveli, qui nous apparaît triste et noyé dans la brume, mais noyé plus encore dans les flots de l'oubli. Voyons ce qui s'y passait pendant la nuit du 23 mars 1818.